اكسبريسو.
مرحبا بكم كل المواصلين هوني في ربط مباشر من موفابيكا مارت. نحكي كو ديفلوبون هوني مع بيزنس فرانس. الحدث من بعد دايور ما عادش كان الناس اللي يهمهم الامر يسون دون سيت لوجيك كو ديفلوبمون تونس فرنسا ينجموا يحضروا هوني نسبا سليم وي سي اوفر تري بيان اوكي هاكا دعوه في المباشر للي يسمعوا فينا. نواصلوا كما قلت لكم حاضر معنا الان السيد ستيفان ديبلو اللي هو بريزيدون افان سي لاسوسيسيون دي ريسبونسابل دو فورماسيون جمعيه في فرنسا 80% منها فرنسيه 20% فرانكوفونيه دونك افيك دي بارتناريا ان بيتي بو بارتو dans le monde francophone. Bonjour, bienvenue en Tunisie.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, AFEN, pour ceux qui ne connaissent pas.
Eh bien, l'AFEN, c'est tous les responsables de formation en entreprise qui veulent réfléchir sur l'avenir de leur métier. En se disant, aujourd'hui, la grosse interrogation, c'est le numérique, en se disant qu'est-ce que ça change, et concrètement, dans les pratiques, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour être encore là demain.
Bah, tout simplement, alors, ça, c'est bien, c'est difficile. Vos activités ne se concentrent pas que sur la France?
Non, on essaie de jouer notre rôle francophone en se disant qu'il y a une vraie opportunité pour sortir du binôme chinois-américain. Il y a une troisième voie et la francophonie peut être une très belle solution. Et donc, on essaie d'aider les associations partenaires en allant chez eux, en les mettant en lumière en France, puisque la France est un gros marché. Dans ces cas-là, on essaie de s'entraider pour faire vivre la francophonie au quotidien, dans les entreprises.
Très bien, alors... En Tunisie, quels sont vos liens, vos relations avec la Tunisie?
Alors avec la Tunisie, on a plusieurs projets. On travaille avec l'ARFORG depuis longtemps. On est venu ici puisqu'on a fait partie des partenaires de cet événement il y a de ça 2 ans, lors de la création. Donc on est fidèle dans ce qu'on fait. On essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait travailler sur des territoires apprenants, voir comment est-ce que la Tunisie pourrait travailler davantage avec la France. Parce que la France, c'est un gros marché. Elle représente en formation professionnelle 30 milliards donc, par an. Quand on rajoute l'éducation, l'enseignement supérieur plus l'éducation nationale, ça fait près de 100 milliards qui sont dépensés par an. Donc c'est 3 marchés différents. Moi, c'est pour la formation professionnelle. Il y a des vrais besoins. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est encore plus vrai. En France, on est aussi largué que dans le reste du monde. Donc ça veut dire qu'il y a des opportunités. Et donc ça veut dire que s'il y a une agilité tunisienne, simplement, il faut apprendre à se rencontrer. Et nous, avec la FEN, on a Learn for Good qui permet justement, on est en train de réfléchir à mettre en place un système de dating pour que les gens se rencontrent. Pour qu'après ils fassent du business, c'est caritatif puisque c'est associatif chez nous.
Pouvez-vous nous parler de votre action sur la formation professionnelle?
Oui, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille d'abord sur de la veille. Aujourd'hui, on se dit à 5-10 ans, qu'est-ce qui va bouger? Voilà, on travaille sur la prospective, de façon à éviter que les gens soient surpris par des modes en se disant, tiens, il y a ChatGPT qui vient d'arriver, qu'est-ce que je fais? Alors, est-ce que j'arrête Meta? Parce que tout le monde avait mis sur Meta avant. Hein. Maintenant, c'est ChatGPT. Demain, ça sera quoi? Et donc, soit on est sur des modes...
Justement, bah, je profite, je fais une petite parenthèse. Bien, qu'est-ce qui est en train de changer, justement? Quelles sont les tendances? Là, on profite pour avoir un petit peu de...
Alors, la tendance, c'est ChatGPT. Alors, quand je dis ChatGPT, c'est GMI, c'est Mistral pour la France, bien sûr. D'accord. Mais ça veut dire que l'intelligence générative, ça change complètement le rapport de force. Ouais. C'est-à-dire qu'en formation, un individu, un collaborateur peut se former tout seul avec ChatGPT, un agent conversationnel. Il a plus besoin de... D'abord, c'est gratuit. Il n'a plus besoin de passer par tous les systèmes de formation traditionnels et la formation n'est pas forcément de mauvaise qualité, sous réserve un peu de... Il y a quand même un peu des erreurs dessus, mais pour quelque chose qui est basique, c'est vraiment intéressant. 24 heures sur 24, j'ai un formateur chez moi et donc j'engage des conversations. Par exemple, je peux lui demander de me coacher, je peux lui demander de me former avec mon niveau. Et quand je lui dis non, je ne comprends pas ce que tu me dis, dans ces cas-là, il se réactualise automatiquement. Et ça veut dire 24 heures sur 24, quand je veux maîtriser un sujet, par exemple des sujets techniques de la formation, je lui donne 200 mots de la formation et il me fait des phrases avec pour que je les entende et que je les répète. Et là, il me dit non, là, c'est mal employé. Et donc, il me corrige. C'est hyper intéressant. Et ça, c'est soit gratuit, soit effectivement, c'est 20 € par mois.
D'accord. Aujourd'hui, on parle beaucoup. Demain, dans 24 heures, dans cette émission, on redoit Fibonacci comme expresso. Je n'arquive pas IA générative. Je n'arquive pas KFM. KFM est un tout c'est Belkhaj. Tu as tes choix. On en parle souvent. Il y a même des métiers qui sont nés. On parle de prompt engineer aujourd'hui. Exactement. Des ingénieurs qui vont dompter cette technologie, etc. Enfin, ça arrive avec tout un univers de possibilités et de potentiel. Voilà. Pour vous, donc, pour revenir. donc à l'action de formation professionnelle. Donc vous essayez de faire de la prospective, d'informer votre réseau de ce qui est en train de changer, de où va le monde, et après vous essayez de...
On fait des cartographies. Voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, on est sûr que la carte n'est pas le territoire, mais ça veut dire qu'effectivement, on dit voilà ce qui bouge. Et l'élément qu'on leur donne, c'est de dire ne vous laissez pas prendre par le vertige technologique, testez des choses. De toute façon, l'apprenant va de plus en plus avoir du poids. Ça veut dire qu'il va de plus en plus être autonome. Il y a une horizontalisation de la formation. Le 21e siècle, c'est le siècle des apprenants, alors que le 20e siècle, c'est des experts. Donc il y a un glissement qui se fait. En 10 ans, il va y avoir une bascule. Donc ne vous laissez pas prendre par la technologie, mais deux choses. D'abord, c'est sociologique plus que technologique. Et deuxième élément, allez-y. Même si c'est nul et que ça va changer, qu'il y aura autre chose derrière, il y a une courbe d'apprentissage. Quand vous le faites, dans ces cas-là, vous avez l'intelligence des doigts. Et derrière, aujourd'hui, là où il y a des très très grosses opportunités en France, c'est de dire, lancez-vous sur l'accompagnement sur ChatGPT, prévoyez que demain, il y aura autre chose que ChatGPT, et donc si vous êtes assez agile pour suivre ça et vous doter d'une image d'innovation, eh bien, il y a 120 000 organismes de formation qui sont tous dans la même question, des petites structures, donc prêts à collaborer pour peu qu'ils aient confiance. Donc il faut créer cette confiance, et donc il y a un travail marketing à faire. Voilà. En tout cas, le marché est là. 30 milliards par an, c'est énorme. C'est énorme.
Très bien. Alors, j'essaie d'interagir un petit peu avec les auditeurs.
Bien sûr.
Que la question formation,
très bien.
Elle touche beaucoup, donc elle concerne beaucoup. Alors, la formation professionnelle en particulier, pourquoi je posais cette question? Un, parce que vous y connaissez, vous travaillez énormément sur cet axe. Alors, la formation professionnelle n'est pas perçue de la même manière, puisque vous me parlez de cartographie tout à l'heure, vous me parlez d'une présence dans pas mal de pays francophones. Elle n'est pas perçue. Quels sont les avantages d'avoir? Pourquoi il faut aller plus vers la formation professionnelle, ou en tout cas en faire plus, en fournir plus, en former plus, redorer le blason dans certains pays où elle n'est pas perçue à sa juste valeur? Alors, et comment on peut en faire? Peut-être, ce n'est pas une question de branding, et on va dire c'est beau, et les gens vont dire c'est beau. Peut-être faire en sorte qu'elle soit vraiment efficace dans un marché comme la Tunisie, par exemple.
Complètement. Alors, la formation professionnelle, pourquoi est-ce qu'il faut se former? Parce que le monde se transforme. Tant qu'il y a des transformations, il y a besoin de formation. Voilà. Quand il n'y aura plus de transformation dans le monde, on n'aura plus besoin de formation, ou très peu à la marge. Donc aujourd'hui, comme il y a des changements disruptifs, comme on dit, donc il faut de la formation. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. La deuxième question, c'est comment faire pour aujourd'hui être crédible en formation professionnelle? Eh bien, c'est au contraire, c'est du marketing, mais pas du marketing à l'ancienne, à la grand-papa, la réclame, comme on disait, c'est-à-dire où je dis je suis formidable, je suis le meilleur, je suis extraordinaire. Les gens vont dire oui, ça c'est du baratin. Concrètement, vous avez fait quoi? Est-ce que ça marche? Je vais vous découvrir, et quand je vous aurai découvert, montrez-moi que c'est vrai. Mmh. Et donc, il y a une nouvelle façon de faire ses preuves, et donc c'est ça qui fait le marketing. Que ce soit en France ou en Tunisie, les gens, tout ce qui vient d'en haut, il y a une remise en cause, une défiance, et donc il faut montrer, faire ses preuves, avoir des métriques. Et donc la formation, à quoi ça sert? Ben, c'est à l'organisme de formation à le dire. Et les gens qui ne se font pas ce métier-là en disant la formation c'est important, non, c'est faux, toutes les formations ne sont pas importantes. La vôtre que vous me proposez, pourquoi est importante? Si je fais une formation management, qu'est-ce que je gagne concrètement? 30% de quoi? Voilà. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça, il vous manque un morceau qui s'appelle du marketing, du corporate branding. Donc écrivez une histoire qui tienne la route, qui soit vraie, que vous puissiez démontrer, et là vous allez voir qu'il y a des vrais espaces. Alors que ce n'est pas l'histoire de la formation qui, quand c'était des experts, c'est des gens qui étaient plutôt administratif. Et donc, il n'y a pas besoin de marketing.
Justement, comment une entreprise identifie ça, identifie ce âge, comment faire, que faire, quand le faire, avec qui le faire?
Alors, je crois que, voilà, exactement, je crois qu'en fait, il faut se raconter des histoires. C'est-à-dire, c'est quoi l'histoire de l'entreprise? Une entreprise, si je fais du management, toutes les boîtes font du management. Donc, ça veut dire que si vous faites toutes les boîtes, tout le monde va tirer les prix vers le bas parce que vous n'êtes pas bon. Là, tout simplement. Donc ça veut dire que faites une histoire, c'est un management qui est éco-responsable, c'est un management qui est sur de la bienveillance, en définissant ce que ça veut dire. Vous racontez une histoire et après vous la démontrez. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous faites par exemple des organismes de formation qui travaillent, des formations de formateurs, il y a une grosse question qui émerge en France, alors je ne sais pas si c'est en Tunisie la même chose, c'est les responsables de formation nous disent, nous on aimerait bien faire notre bilan carbone en formation. C'est pas très très compliqué à faire, il y a des ratios à calculer, etc. Donc c'est pas très compliqué. Faire des formations là-dessus, les responsables de formation sont très preneurs de ça, parce qu'ils connaissent pas du tout ce secteur-là, et donc il y a une acculturation qui doit se faire. Et pour faire ça, il faut suivre des organismes comme la FEN ou bien d'autres, qui vous font des cartographies, et après dans la cartographie, vous tracez votre territoire, votre chemin. Voilà. Mais si, soit, ou alors vous créez vous-même votre cartographie, mais vous passez tout votre temps à faire de la veille, et vous produisez plus dans ces cas-là. Et donc, il vaut mieux voir des professionnels qui bossent avec de la prospective. Mais une fois que vous avez ça, vous avez la moitié du chemin. C'est-à-dire que vous savez que c'est plein de chemins. C'est quoi le vôtre? Et donc, après, vous tracez votre chemin. Et donc, ça, c'est du business. Voilà. Moi, j'étais patron d'incubateur. Donc, ça veut dire que je suis à l'aise avec le business. Simplement, quand vous n'avez rien à dire, c'est étrange, mais les gens ne vous entendent pas.
Voilà. Alors, très rapidement, pour terminer, vraiment 30 secondes, comment, parce que c'est une question que j'ai un petit peu abordée d'une autre manière. Alors, comment vous voyez l'avenir AFEN Tunisie, ce co-développement ?
Alors, comme je suis quelqu'un de très positif, ben, je crois qu'il y aura de belles collaborations, parce que et la France en a besoin, et la Tunisie aussi. Et quand c'est win-win, ben, les deux ont des chances de se rencontrer, mais il faut des marieurs. Et donc, c'est ce que la FEN essaye de faire avec d'autres associations sur place. Je pense à l'ARFORG ou des structures comme ça, en disant ben, la formation sont des gens qui fonctionnent par cooptation. C'est-à-dire, il faut qu'on leur dise qu'ils sont bien, mais une fois qu'ils sont rencontrés pour de vrai, dans ces cas-là, il y a du business à se faire pour les deux. C'est ça qui est intéressant.
Merci beaucoup Stéphane Diablo, je rappelle président AFEN, l'association des responsables de formation. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, à suivre de très près ce que fait l'AFEN. Okudumana Fasel Rajain. Expresso.